Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, on va retrouver tout de suite le frère Thomas Marie pour l'émission sur les saints dominicains. C'est à suivre sur l'antenne. Voilà, frère Thomas Marie, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour Jérôme, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Maria. Et sur ce chemin, eh bien, nous poursuivons nos rencontres avec les saints et saintes et les grandes figures de l'ordre des prêcheurs. Après la bienheureuse Marguerite de Castella le mois dernier, dont nous espérons d'ailleurs que le pape François signera son décret de canonisation dans les mois à venir, eh bien nous partons à la rencontre d'un frère de l'ordre des prêcheurs allemand, le vénérable Titus Maria Horten. Tite Marie, si l'on veut absolument franciser son prénom, un frère qui a vécu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, donc un témoignage récent. Son nom, son prénom complet, c'est Franz Aloysius Lorenz Friedrich Horten. Il naît le 9 août 1882 à Helberfeld, qui se trouve aujourd'hui dans la banlieue d'une grande métropole allemande de la région de la Ruhr, cette célèbre région industrielle de l'ouest de l'Allemagne, donc dans la banlieue de Wuppertal, dans l'actuel État Länder de Rhénanie-Nord-Westphalie, donc près de la grande capitale de l'État qui est Düsseldorf. Il naît à la fin du 19e siècle. Vous savez qu'à cette époque, l'Allemagne est un régime monarchique. Elle vit sous l'Empire, même le Second Empire, et c'est le règne de l'empereur Guillaume Ier. Franz, donc, naît dans une famille bourgeoise profondément chrétienne, catholique, soulignons-le, puisque ce n'est pas la grande majorité des citoyens allemands qui le sont encore à cette époque. Son père, Anton Hubert, est juriste, il est procureur, puis juge du Reich, et sa mère, Sidonie Sophie Klauser, se charge eh bien, du foyer et de l'éducation de la nombreuse fratrie de Franz. En effet, il a 5 frères et 2 sœurs, faites le calcul, ils sont donc 8 dans cette famille. Franz eh bien, vit parfaitement sa jeunesse, son enfance, auprès de sa maman et de la maisonnée. Il entre à l'école élémentaire de Francfort-sur-le-Main, puis à Leipzig, où son père travaillait alors auprès de la cour impériale. Et en 1893, il entame les études secondaires au Collegium Albertinum, tenu par les dominicains de Venlo. C'est un étudiant moyen, mais il va se passionner pour les études littéraires et philosophiques. En effet, il étudie spécialement la langue française, l'anglais et la philosophie durant la première décennie du XXe siècle, dans ce qu'on pourrait appeler un grand tour, pas la tournée des grands ducs, mais un grand tour des universités, des grandes universités européennes. Il va, un grand tour d'Europe des universités, qu'il va commencer d'abord donc à Leipzig, qu'il terminera à Bonn, en passant par Münster, Grenoble et Londres. Après une dizaine d'années d'études, en 1909, il obtient son doctorat en philologie et philosophie avec la présentation d'une thèse intitulée « Études sur le langage de Defoe ». Alors, parenthèse, sur quoi porte cette étude? Eh bien, sur la langage et la philosophie dans l'œuvre de Daniel Defoe. Souvenez-vous, c'est l'écrivain du tournant du XVIIe-XVIIIe siècle, considéré comme le fondateur du roman anglais, avec cette œuvre magistrale « Robinson Crusoe ». Donc, Franz Horten est d'abord un linguiste et un philosophe spécialiste de Defoe. Mais en 1903, il va y avoir un bouleversement dans la famille Horten. Anton, le maître de famille, le père, décède. Et ce décès va être à la fois pour son épouse et pour plusieurs de ses enfants comme un révélateur, comme un choc vers la vocation, l'appel à suivre le Christ de manière plus déterminée et déterminante. En effet, Sidonie Sophie, donc la mère de France, va entrer dans un monastère des sœurs de la Visitation. Deux de ses sœurs vont entrer également dans la vie religieuse, et son frère aîné, Paul Anton, entre chez les dominicains sous le nom de frère Timothée Marie. Et dans ce mouvement, eh bien après sa formation universitaire, France décide à son tour d'emboîter le pas à son frère et de se joindre lui aussi à cette grande famille dominicaine, à vivre l'exemple du Christ, la vie de disciple à la manière de saint Dominique. En effet, flamboyant docteur en philosophie, il gardait le meilleur souvenir de ses anciens maîtres dominicains de Venlo. Il vend tout son héritage, la part qui lui revenait, et ses possessions en faveur des pauvres ou d'œuvres caritatives, et il entre au noviciat au couvent d'Ovesta en 1910. Il poursuit là sa formation religieuse et théologique, notamment aussi au couvent de Düsseldorf, où il fera profession solennelle en 1913. En 1915, à l'issue de ses deux dernières années d'études passées à Rome, il est ordonné prêtre. Alors, si ce n'était, comme nous le verrons dans la deuxième partie de notre émission, sa mort que l'on peut considérer comme martyr, eh bien, on pourrait aussi déjà noter l'exemplarité de celui qui est devenu le frère Titus Maria, Tite Marie, dans sa fidélité au charisme de l'ordre. Un service qualifié de la foi, l'écoute, la contemplation et la transmission de la parole de Dieu. La recherche de la vérité révélée à travers l'approfondissement théologique et la prédication, l'annonce de la parole, l'enseignement. Cela nous rappelle la fidélité à ce que l'on pourrait appeler une des devises de l'ordre, même si ce n'est pas une devise au sens strict, mais l'héritage que nous avons reçu dans l'ordre de la part de saint Thomas d'Aquin, contemplata aliis tradere. Transmettre aux autres le fruit de notre contemplation. Alors pendant 20 ou 30 ans, c'est à cela que va s'atteler de manière exemplaire le frère Titus Maria. Il va d'abord être enseignant au collège de Vesta, où il avait fait son noviciat, ce collège qui était sous tutelle de l'ordre dominicain, qui existe toujours actuellement, l'institution Saint-Thomas, à Fuchtel. Il va y enseigner les langues étrangères et la philosophie, puisque ce sont ses spécialités. Mais il ne va pas se limiter à enseigner au collège, il va aussi développer un fort apostolat de direction spirituelle et de ministère de confesseurs. À partir de 1923, il est directeur de la récente maison d'édition dominicaine Albertus Magnus, Albert le Grand, qui était chargé de publier en particulier une revue scientifique et théologique, des livres religieux, différents petits bulletins à l'intention des paroisses pour le travail pastoral et des calendriers liturgiques. Ce que fait d'ordinaire une maison d'édition catholique avec cette spécificité dominicaine. En 1927, il est élu prieur de son couvent. Il sera prieur jusqu'en 1933. Et à la même époque et jusqu'à sa mort, il prend également en charge la procure générale de la mission de Chine, c'est-à-dire la charge administrative, institutionnelle et financière des missions de l'ordre placées sous la vigilance de la province de Teutonie en Allemagne et installées en Chine. Donc vraiment, ce que j'aimerais souligner dans cette première partie, avant que nous écoutions un morceau de musique qui nous fera méditer, c'est l'aspect missionnaire de la vie du frère Tite Marie qui, je le répète, serait déjà digne d'exemplarité à suivre dans la conformité au charisme dominicain, si sa mort aussi n'était pas le summum, je dirais le sommet de toute cette vie qu'il a vécue dans la fidélité au charisme de l'ordre. Donc une vie missionnaire. Contemplata alis tradere, transmettre aux autres le fruit de notre contemplation, et dans le ministère de prêtre, à la suite de Saint-Dominique, eh bien aussi se mettre au service du peuple de Dieu dans la direction spirituelle et dans l'apport des sacrements, et en particulier le sacrement de réconciliation. Chers amis, nous nous retrouvons après la pause musicale pour évoquer la deuxième partie de la vie du frère Sainte-Marie, du vénérable Sainte-Marie Horten, qui, vous le verrez, est là aussi plus qu'exemplaire. Et comme nous avons évoqué l'Allemagne de l'Ouest et Leipzig, l'ancienne capitale de l'Empire allemand, là où a vécu une partie de son enfance le vénérable frère Sainte-Marie Horten, eh bien, évidemment, Leipzig fait écho au grand compositeur allemand du XVIIe siècle, un des maîtres du baroque qui nous fait tant aimer la musique et tant prier, Jean-Sébastien Bach. Eh bien, nous écoutons et nous prions ensemble, nous méditons ensemble à travers l'écoute de sa cantate BWV 147, que vous reconnaîtrez, « Jesus bleibet meine Freude, Jésus, que ma joie demeure ».
Yeah.
Voilà, frère Thomas Marie.
Eh bien, chers amis, nous avons parcouru le début, la première partie de la vie du vénérable Titus Maria Horten. D'abord dans sa jeunesse, brillant étudiant, philologue et philosophe, puis le début de sa vocation dominicaine dans la recherche de la vérité, dans la prédication, spécialement dans l'enseignement et le travail d'édition, et puis aussi le soin de ses frères dans la mission de prieur de son couvent et de procureur général des missions de Chine. Cela nous mène au tout début des années 30. Même, je le disais, le frère Titus Maria termine son mandat de prieur du couvent de Vesta en 1933. Or, en 1933, comme vous le savez, chers amis auditeurs, c'est l'année de l'avènement au pouvoir en Allemagne du régime nazi, Adolf Hitler, élu chancelier de l'ancienne République de Weimar. Et avec lui, la montée en puissance et du national-socialisme, l'imposition dans toute l'Allemagne de cette idéologie à la fois politique, mais surtout une idéologie qui ruine l'homme, une idéologie prométhéenne, l'Ubermensch, du surhomme, avec l'idéalisation d'un type racial allemand, arien, et une idéologie profondément païenne qui va aussi brasser les anciens mythes germaniques. Alors forcément, le national-socialisme va rencontrer très tôt dans cette prise du pouvoir idéologique, dans des esprits également, va rencontrer l'opposition de l'Église. Et l'opposition face à l'Église qui va chercher à défendre l'homme et à continuer sa mission de propagation d'un message réellement humanisant, celui de l'Évangile. Autour de ces années, je le cite pour exemple, mais au tout début du régime national-socialiste, vous le savez, avant la Seconde Guerre mondiale et avant le plan d'extermination de la solution finale de la Shoah dirigée spécialement contre nos frères juifs, eh bien, il y avait déjà des plans d'extermination raciale, de purge de la population allemande. D'abord une grande affaire qui a fait beaucoup de bruit, l'isolement, l'internement, puis aussi un commencement de forme de tuerie de masse des malades mentaux au tout début du régime national-socialiste. Et il convient de rappeler ici que l'Église s'est fortement élevée contre ces mesures, notamment à travers la voix du bienheureux évêque de Münster, le lion de Münster, le bienheureux cardinal von Galen. Et l'Église, quoi qu'on en dise, a été, durant toutes ces années, à bien des égards, une marque de résistance face au régime nazi, et en l'occurrence dans ce processus d'internement et d'extermination des malades mentaux qui, d'une certaine manière, a pris fin suite à cette prise de parole évangélique prophétique du cardinal von Galen. C'est dans tout ce contexte que va se terminer et va se poursuivre, puis se terminer, la vie du vénérable Tite Marie Horten. En effet, en 1935, la Gestapo ordonne une perquisition au siège de la maison d'édition Albertus Magnus, qui est gérée par le frère Titus Maria. Et donc le frère Titus Maria et deux de ses collaborateurs, le frère Laurentius Zimmer et le frère Thomas Stu-Weissenburg, sont arrêtés et emprisonnés sous un chef d'accusation fallacieux, celui de transfert de fonds illégaux vers la Chine, compte tenu de sa charge de procureur des missions chinoises. On l'arrête sous un faux prétexte, alors qu'on sait très bien que c'est parce qu'il est prêtre, sous le prétexte de transfert de fonds, de blanchiment d'argent vers la Chine. Il est d'abord interné à la prison de Vesta et plus tard à la prison du tribunal d'Oldenburg. Et comme de nombreux autres prêtres prisonniers martyrs, Dans sa geôle, le frère Titus Maria essaie de poursuivre avec rigueur l'ascèse de la vie religieuse dans la prière. Malgré les privations de toutes sortes et les tortures, surtout lors de nombreux interrogatoires. Le 4 novembre 1935, à la suite d'un procès spectacle, dont le régime national-socialiste et les régimes totalitaires en général ont le goût et la passion, allez savoir pourquoi, sans doute par passion populiste, donc à l'issue d'un procès spectacle, le frère Titus Marie est condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende de 70 000 Reichsmark. Alors paradoxalement, les défenseurs, on en est au tout début de l'instauration de la terreur nazie. Il faut avoir ça en tête. Tout le processus de la terreur, précisément, était déjà en germe, mais le rouleau compresseur n'avait pas encore fait tous ses effets. Et donc, les défenseurs du frère Tite Marie et de ses collaborateurs vont faire appel de la sentence. Et miraculeusement, ce qu'on peut quand même voir là un effet de la Providence, c'est l'un des très rares appels de justice dans ce type de procès contre des prêtres catholiques qui va aboutir à un acquittement. Donc une chose extrêmement rare et exceptionnelle. Mais malheureusement, le frère Titus Maria va décéder avant de pouvoir être libéré dans des circonstances troublantes, inexpliqué, probablement des suites de son internement, de son isolement en prison et de la malnutrition qu'il y a subie. Il décède le 25 janvier 1936. Quelque temps avant, il avait pu recevoir les derniers sacrements des mains de l'aumônier de la prison, le frère Heinrich Grafenhort. Et aux funérailles du frère Titus Maria, à Vechta, ce sont plus de 6000 fidèles qui se rassemblent. C'est donc déjà là une reconnaissance du peuple de Dieu, du témoignage porté par ce frère jusqu'à, sans doute, le don ultime de sa vie, jusqu'au martyr, et en tout cas du témoignage de disciples du Christ à la suite de saint Dominique qu'il avait déjà propagé dans le cœur des fidèles qui lui étaient attachés. Son procès en béatification s'est ouvert dans les années 50-60 dans le diocèse de Münster. Et ce procès, toute la phase diocésaine, trouve une issue favorable le 20 janvier 2004 lorsque le pape Saint Jean-Paul II autorise la publication du décret sur les vertus du serviteur de Dieu, frère Titus Maria Horten, reconnaissant qu'il a vécu sa vie de disciple du Christ suivant les vertus chrétiennes et évangéliques, à un degré héroïque, digne d'exemple et d'imitation, et cela lui confère donc, depuis lors, le titre de vénérable. C'est une partie importante dans un processus de canonisation. Les restes du vénérable Titus Maria Horten, ses reliques, sont vénérables à l'église des Dominicains de Fuchtel, où elles ont été transférées en 1954. Alors, quelle poursuite peut avoir le procès? J'avoue ne pas avoir bien situé dans quelle démarche ce procès avait été lancé, si c'est pour reconnaître les vertus et l'exemple du frère Titus Maria en tant que confesseur de la foi, et dans ce cas, il faut s'atteler à la tâche et le prier pour que, à l'intercession du frère Titus Maria, l'Église et le peuple de Dieu puissent recevoir un miracle soit fait pour confirmer la sainteté du frère Titus Maria. Ou, dans un autre sens, eh bien, une autre phase du procès, ce serait la reconnaissance du martyr, le martyr valant pour miracle suprême. Donc, reconnaître que le frère Titus Maria est mort dans des circonstances qu'il reste à établir, mais est mort spécifiquement en haine de la foi chrétienne catholique. Alors une invitation, évidemment, comme nous le faisions aussi le mois dernier, et comme c'est peut-être un appel chaque mois que nous partageons ensemble, un appel à la prière. Prière, puisque la prière, en plus, est une des demandes pour le carême. Eh bien, n'hésitons pas à prier le Seigneur, à lui faire une place dans notre cœur, en demandant l'intercession du vénérable frère Titus Maria Horten, pour que la grâce puisse germer en nous, à son exemple, missionnaire, disciple, vraiment missionnaire, et le don de la vie. Alors peut-être pas jusqu'au martyr, toute cette grâce n'est pas faite à tous, mais tous nous avons à vivre, je dirais, le martyr du quotidien. Et je terminerai notre échange un peu sur ce thème. L'exemple du martyr, le martyr, c'est vraiment le témoignage ultime, hein, c'est le sens, comme vous le savez, du mot grec, martyros. Et bien, le témoignage, il se vit aussi au quotidien, la fidélité au Christ. Et c'est peut-être même, je dirais, sans déshonorer la mémoire de nos martyrs, que là aussi, il y a à travailler dans la notion de sacrifice et de patience. Tout ce que nous pouvons supporter comme petit sacrifice, comme petite chose, chaque jour, à offrir au Seigneur dans la communion à sa passion. C'est un petit peu cela que revêt le sens du carême. Communier à la passion du Christ, d'une manière ou d'une autre, là où nous sommes, dans les situations de vie que nous connaissons, et encore plus en ce temps de pandémie qui nous affecte tous. Et communion à la passion du Christ avec lui, ressuscité. Car la passion et la croix ne sont pas le dernier mot de la mort, mais bien l'épanouissement de la vie. Autre lecture que nous entendions durant la première semaine du carême, du Deutéronome, le Seigneur dit « Voici que je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Eh bien, avec le frère Titus Maria Horten, choisissons la vie à la suite du Christ. Et avant de vous quitter, de vous laisser peut-être la parole, chers amis auditeurs, j'aimerais vous lire un texte de Madeleine Delbrel, qui n'est pas spécialement dominicaine, que je sache, bien qu'elle ait été, je fais une parenthèse, elle n'est pas elle-même dominicaine, mais elle a été la fille spirituelle d'un dominicain. Donc il y a quand même des liens, voyez-vous. Et j'aimerais vous lire ce texte sous forme de prière, puisque c'est le sens un peu que je voulais donner au martyr, à la figure aussi du frère Titus Maria, Tite Marie. Le martyr du quotidien. Son texte s'appelle « La passion des patients ». La passion, notre passion, d'accord, nous l'attendons. Nous savons qu'elle doit venir et il est convenu que nous entendons la vivre avec une certaine grandeur. Le sacrifice de nous-mêmes, nous attendons quand sonne l'heure, comme une bûche dans le brasier. Nous savons que nous devons être consumés, comme un fil de laine tranché au ciseau. Nous devons être séparés, comme un être jeune qu'on égorge. Nous devons être supprimés. La passion, nous l'attendons. Nous l'attendons et elle ne vient pas. Ce qui vient, ce sont les patients. Les patients, ces petits morceaux de passion, dont le métier est de nous tuer tout doucement, pour votre gloire, Seigneur, de nous tuer sans notre propre gloire. Et dès le matin, ils viennent au-devant de nous. Ce sont nos nerfs, trop vibrants ou trop mous. C'est l'autobus qui passe plein, le lait qui se sauve, les ramoneurs qui viennent, les enfants qui embrouillent tout. Ce sont les invités que notre mari amène, et cet ami qui, lui, ne vient pas. C'est le téléphone qui se déchaîne, ceux que nous aimons et qui ne s'aiment plus. C'est l'envie de se taire et le devoir de parler. C'est l'envie de parler et la nécessité de se taire. C'est vouloir sortir quand on est enfermé et rester à la maison quand il nous faut sortir. C'est le mari sur qui nous aimerions nous appuyer et qui devient le plus fragile des enfants. C'est le dégoût, notre ration quotidienne, et le désir nerveux de tout ce qui n'est pas à nous. Ainsi viennent nos patients en rang serré et en file indienne, et elles oublient toujours de nous dire qu'elles sont le martyr qui nous fut préparé. Et nous les laissons passer avec mépris, attendant pour donner notre vie une occasion qui en vaille la peine. Car nous avons oublié que s'il est des branches qui se détruisent par le feu, il est des planches que les pas usent tout doucement et qui tombent en fissures. Car nous avons oublié que s'il est des fils de laine tranchée nette par les ciseaux, il est des fils de tricot qui s'amincissent au jour le jour sur le dos de ceux qui les portent. Si tout rachat est un martyr, tout martyr n'est pas sanglant. Il en est dégrainé d'un bout à l'autre d'une vie. C'est cela, la passion des patiences. Voilà, chers amis auditeurs, prions ensemble Christ de nous offrir la patience dans les passions et la passion des patiences à intercession de notre frère, le vénérable Titus Maria Horten.
Merci beaucoup, frère Thomas Marie. J'avais juste une question. Est-ce qu'il y a des références écrites?
Malheureusement, non. Alors,
c'est ça, hein, oui.
J'ai la même passion que le frère Tite Marie. Je suis passionné de langues, mais plutôt les langues latines et l'une ou l'autre langue slave. Donc, je n'ai pas la chance de parler allemand au grand désarroi de mes frères qui sont universitaires. Donc, il y a quelques écrits, mais peu traduits en français, dans une langue accessible, voire même en anglais, je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses en anglais. Donc il y a la thèse du frère Tite Marie qui est éditée, quelques témoignages, quelques lettres, aussi une correspondance qu'il a pu échanger. Donc pour ceux ou celles de nos amis auditeurs qui seraient germanophones, ils peuvent avoir accès à ces textes, notamment sur le site des frères dominicains de Vesta, qui a publié... qui se fait le relais de la cause en béatification du vénérable frère Titus Maria, où il y a une présentation un peu plus exhaustive de sa vie et de son témoignage, et là aussi de ses écrits. Quelques articles et un livre, notamment donc, publié par les frères dominicains de la province de Teutonie, publié en 2015. Mais je n'ai pas là sous la main les références, donc très peu de choses et des choses essentiellement en allemand.
J'aurais pu demander peut-être à des frères dominicains germanophones de s'atteler peut-être à un travail
oui,
de traduction.
Alors, de fait. Non, mais on pourrait avoir ce projet. J'ai mes entrées aussi aux éditions du CERF. Malheureusement, la spiritualité, le goût de nos figures de sainteté ou d'exemplarité dominicaine, ça dépend des provinces et des frères, j'ai envie de dire.
Oui.
Voilà, donc je suggérerais l'idée aux frères éditeurs de la Maison du Cerf, s'ils ont un frère germanophone et germanophile qui aurait un petit peu une fibre spirituelle, de nous faire une petite biographie en français du frère Tite Marie. Non, mais de fait, ça vaudrait le coup. Mais surtout que manifestement, c'est une figure que l'ordre, dans le jubilé que j'évoquais le mois dernier, a envie aussi de mettre à l'honneur et que sans doute le procès avance, donc soit avec l'obtention d'un miracle, comme je le soulignais, soit dans la reconnaissance du martyr. Voilà, donc
oui. On
peut, avis aux bonnes œuvres, si l'un ou l'autre des auditeurs se prend de passion pour la vie du frère Tite Marie, qu'il n'hésite pas à poursuivre dans cette direction et à faire savoir soit à la rédaction de Radio Maria, soit aux frères dominicains, l'intérêt qu'il y porte et l'aide qu'il pourrait fournir aux frères pour diffuser le témoignage, la mémoire de ce vénérable frère dominicain.
Voilà, la mission, le défi est lancé. Merci. Mais en tout cas, merci beaucoup, frère Thomas Marie, pour cette nouvelle émission, pour nous avoir fait découvrir, moi personnellement, que je ne connaissais pas, vénérable Titus Maria Horten.
J'ai un peu ce souci pour cette saison, compte tenu du jubilé de l'ordre qui nous place dans l'anniversaire, 800e anniversaire de la mort de Saint Dominique, effectivement, de nous faire découvrir des figures dominicaines. Alors, sur 83 saints et saintes officielles, plus de 200 bienheureux et quelques centaines une centaine fois 50 encore frères et sœurs en procès de béatification, s'entend, serviteurs de Dieu ou vénérables. Évidemment, on ne connaît que les grands.
Oui.
Donc c'est aussi ma joie et mon plaisir de découvrir ces figures avec vous, de les travailler un petit peu. Et donc voilà, Marguerite le mois dernier, le frère Titus Maria aujourd'hui et ce mois-ci. Et voilà, au fur et à mesure dans cette saison, dans les mois à suivre, des figures dominicaines méconnues, mais justement, qui, grâce à vous, le deviennent moins. Et nous espérons que cela porte du fruit dans le cœur des auditeurs, voilà, du charisme dominicain qui est propre à la famille dominicaine, mais qui veut se développer, qui veut être une chance pour l'Église. Voilà. Donc, on ne va pas faire de tout le monde des dominicains, des dominicaines, même les laïcs, mais il s'agit de puiser aux sources de notre tradition, pour chacun, l'exemple des saints et en faire son miel, puisque c'est ça la communion des saints. C'est
oui.
Bien l'exemple des saints, faire son propre miel pour soi-même devenir le saint unique que Dieu veut et souhaite que nous devenions.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment,
merci
frère Thomas
Marie.
Merci
à vous, Jérôme. Merci, chers amis auditeurs.
Et on se retrouve donc le mois prochain.
Le mois prochain, tout à fait.
Merci, merci
à très
beaucoup.
Bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.